Bonjour, professeur Bruno Lévy. Vous êtes PUPH de réanimation à l'Université de Lorraine et chef de service de la réanimation médicale de Brabois. Vous êtes spécialiste du choc cardiogénique et notamment de l'assistance circulatoire du choc cardiogénique. Et c'est dans ce contexte que nous vous invitons aujourd'hui avec comme première question, quelles sont les indications de l'assistance circulatoire dans le choc cardiogénique ?
Alors, clairement, comme indiqué dans la question, l'assistance circulatoire mécanique est destinée à remplacer la fonction pompe du cœur. Donc, par conséquent, l'indication princeps est le bas débit cardiaque symptomatique réfractaire au traitement médicamenteux. Mais toute la définition est donc dans la définition du choc réfractaire au traitement médicamenteux. La plupart des études observationnelles publiées démontrent que lorsque l'assistance cardiaque, et notamment l'ECMO, est mise en place alors que les défaillances viscérales sont présentes, et notamment les défaillances rénales hépatiques, les résultats sont moins bons. Un des bénéfices de l'ECMO, en théorie, serait, en restaurant le débit systémique et en déchargeant le cœur droit, de diminuer la défaillance multiviscérale d'origine ischémique et de diminuer ainsi probablement le trigger inflammatoire lié à la présence d'une hypoxie tissulaire. Enfin, et de façon évidente, les inotropes notamment ne peuvent être efficaces que s'il reste du myocarde viable et stimulable. De fait, en ce qui concerne les étiologies, et malgré l'absence d'études randomisées prouvant le bénéfice de ces techniques, il existe de très bonnes indications en raison, un, de la mortalité spontanée importante de ces pathologies comparées aux bons résultats observés dans l'assistance cardiaque. Un point essentiel et qu'il faut vraiment souligner est que ces techniques doivent être effectuées dans un centre expert et dans un service de réanimation ayant un volume de procédures suffisant et disposant d'un plateau technique complet, ce qu'on appelle un cardiac center qui dispose de coronarographie, mais aussi de chirurgie cardiaque, mais aussi de radiologie interventionnelle. Il faut vraiment que toutes les compétences soient présentes. Alors clairement, les meilleures indications, c'est les pathologies cardiaques qui ont un haut potentiel de récupération. Et donc, finalement, la première de ces indications, c'est le choc cardiogénique de l'infarctus du myocarde. Et il ne faut surtout pas oublier que l'ECMO ou les autres techniques d'assistance circulatoire comme l'Impella, il faut que ces techniques s'insèrent dans un continuum thérapeutique qui comprend la reperfusion coronaire en urgence, mais aussi toute l'optimisation thérapeutique du patient. La deuxième très bonne indication est probablement l'intoxication aux médicaments dépresseurs myocardiques, notamment par bêta-bloquant, par inhibiteur calcique. La pathologie qui récupère le mieux en termes de défaillance cardiaque, c'est la myocardite. Et même si c'est une maladie qui reste rare, les résultats sont extrêmement bons en termes d'assistance cardiaque. Et ce sont vraiment des patients qu'il faut référer très rapidement vers un centre expert. Enfin, il existe un certain nombre de pathologies où la fonction myocardique peut récupérer. Alors, une indication rare, mais à bien connaître, c'est la dépression myocardique fulminante associée au choc septique, dont on parlera un petit peu plus tard. Et puis aussi, l'ECMO peut être utilisé, par exemple, dans le choc cardiogénique de l'embolie pulmonaire, après échec de la fibrinolyse, et si possible, bien évidemment, avant l'arrêt cardiaque. En deuxième intention, viennent les indications dites de bridge, devant conduire à une thérapeutique substitutive, comme par exemple la greffe cardiaque, ou les dispositifs d'assistance ventriculaire gauche ou biventriculaire. En gros, c'est quoi ? C'est toutes les cardiopathies chroniques, et peut-être aussi l'hypertension artérielle pulmonaire en vue d'une greffe cœur-poumon. Mais bien évidemment, à chaque fois que l'on se pose la question, il faudra discuter de l'éligibilité de ces patients à une technique substitutive future. Il est hors de question de mettre une ECMO à un patient qui a une contre-indication à la greffe derrière, par exemple. Enfin, il existe des indications un petit peu particulières, par exemple toutes celles qui sont liées à un acte de chirurgie cardiaque, les sorties de CEC difficiles, le choc cardiogénique un petit peu retardé par rapport à l'intervention de chirurgie cardiaque, les défaillances du greffon cardiaque, les décharges droites accompagnant les mises en place d'un dispositif d'assistance cardiaque gauche. Et puis, une des indications peut-être de l'avenir, mais encore très discutée, mais effectuée dans de bonnes conditions, cela peut être intéressant, c'est la réanimation de l'arrêt cardiaque extra-hospitalier dit réfractaire, où en fonction des études, on peut obtenir des survies allant jusqu'à 25%.
Et quand faut-il mettre mon patient sous assistance ?
Alors, c'est probablement la question la plus difficile à l'heure actuelle. Alors, il y a des réponses faciles. Par exemple, les patients en classe Intermac 1, c'est une classification du choc cardiogénique, qui sont des patients, comme disent les anglo-saxons, crashing and burning. Donc, c'est des patients qui ont une hypotension réfractaire, un très grand bas débit cardiaque, une acidose lactique, et ce, d'autant plus que le choc s'accompagne de défaillance multiviscérale évolutive et au bord de l'arrêt cardiaque. Clairement, ces patients doivent être implantés, à la condition, évidemment, qu'ils ne soient pas considérés comme dépassés. Mais évidemment, l'objectif, c'est d'éviter cette situation. Donc là, il n'y a pas trop de discussion. C'est évident, ils sont en grand bas débit cardiaque, ils sont au bord de la mort. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Maintenant, l'évolution est d'évoluer vers une stratégie d'implantation un peu plus précoce, essentiellement fondée sur la profondeur de l'altération du débit cardiaque. Altération malgré un traitement médical dit maximal, mais avant la survenue de l'atteinte multiviscérale. Donc, il y a une fenêtre de temps qu'il ne faut pas rater. Et là, différents paramètres entrent en compte. Le patient, bien sûr, et ses antécédents, bien entendu. La rapidité d'installation de la pathologie, l'intensité du traitement médical et surtout la réponse à ce traitement médical dit bien conduit. C'est-à-dire éventuellement l'introduction des vasopresseurs, des inotropes et voir si le débit cardiaque, la SO2 s'améliore. Et s'il ne s'améliore pas, bien évidemment, on peut considérer qu'on est déjà dans une situation de choc réfractaire. Et parmi les paramètres hémodynamiques, clairement la constatation échocardiographique d'un bas débit cardiaque avec une ITV inférieure à 8 cm et une fraction d'éjection ventriculaire gauche effondrée en général autour de 20%, c'est vraiment des bons éléments indicateurs d'assistance, d'autant plus qu'ils sont accompagnés de stigmas de défaillance viscérale et d'hypoxie tissulaire. Et clairement aussi, dans ce cas, la mesure de la SO2 du lactate sont indispensables. Par exemple, il faudra tenir compte de la température, notamment chez les patients traités par hypothermie thérapeutique pour un arrêt après un arrêt cardiaque. Il est pas rare de constater, si on le mesure chez ces patients-là, des chiffres de débit cardiaque qui sont bas, mais qui ne sont pas accompagnés d'hypoperfusion périphérique. Et donc, il est hors de question d'implanter un patient uniquement sur un chiffre de débit cardiaque. C'est tout un faisceau d'arguments. Et donc, la stratégie chez ces patients, c'est de faire un bilan hémodynamique complet avec l'instrument dont on a l'habitude. Ça peut être l'échocardiographie, le PICO, la surveillance, d'y associer la mesure de la SO2 du lactate pour essayer d'avoir des marqueurs de perfusion tissulaire, un bilan de biologique de défaillance viscérale comprenant bien entendu le rein et le foie, et d'estimer la situation et de discuter avec les chirurgiens, avec les cardiologues, avec la famille aussi, de l'indication ou pas dont on a discuté précédemment. Enfin, dans de bonnes conditions, en intra-hospitalier, il ne faut surtout pas hésiter à assister un patient qui vient de se mettre en arrêt cardiaque devant nous, devant témoins. Par exemple, un infarctus du myocarde qui s'arrête en salle de coronaro, qui ne récupère pas, c'est une très bonne indication. Et même si les résultats sont moins bons qu'un patient implanté en situation stable, la survie globale est dans les 30%, ce qui est finalement, pour un patient en arrêt cardiaque, n'est pas si mal. La situation complexe dont on peut discuter, et celle qui est peut-être la plus polémique à l'heure actuelle, c'est celle de l'arrêt cardiaque réfractaire. Et là, clairement, le point angulaire dans cette situation, c'est d'arriver à assister le patient dans des délais idéalement inférieurs à 60 minutes, ce qui est difficile et qui demande une tactique adoptée à la situation locale. Et par exemple, cette tactique ne peut pas être la même à Paris, dans une ville de 10 millions d'habitants, que dans ma ville de 200 000 habitants, où les transports sont beaucoup plus simples. Et donc, on en a parlé, les meilleurs succès dans cette série rapporte 25% de survie globale sans séquelles neurologiques.
Très bien. Donc, on a bien identifié toutes les causes cardiologiques qui peuvent mener à une assistance circulatoire pour défaillance cardiologique. Pour des centres moins spécialisés dans ce domaine, et notamment chez les patients sceptiques, quand est-ce qu'il faut penser à la mise en place d'une ECMO chez ces patients donc, qui présenteraient une cardiopathie sceptique?
C'est une excellente question. L'assistance de la cardiopathie pour choc sceptique, clairement, reste exceptionnelle, mais il ne faut pas rater le bon timing. Alors, il y a deux points importants à considérer. La première, ce sont vraiment des patients en choc cardiogénique d'origine sceptique. Si on regarde le cœur, l'écho, il ne bouge plus de façon globale, biventriculaire, systolique, diastolique, l'ITV est effondrée. Les pressions de remplissage sont élevées, la SO2 est effondrée et le lactate est très élevé. Donc, c'est vraiment des patients qui n'ont plus du tout les caractéristiques sceptiques, classiques, hyperkinétiques, vasoplégiques. Donc, la question que l'on se pose, c'est est-ce que l'ECMO va tourner? Oui, elle va tourner. Le patient n'est plus en hypovolémie, ils sont déjà en général en hypovolémie. C'est une situation qui arrive assez rarement, mais potentiellement possible à la phase initiale, soit un petit peu retardée, suraiguë, et il faut vraiment savoir la détecter. Comment? En répétant l'échocardiographie, peut-être en ayant un monitorage régulier des patients, en regardant la pression différentielle qui va commencer à s'effondrer, et en ayant un suivi du patient clinique et paraclinique. Et en cas de non-réponse, mais il faut vraiment pas traîner, à la noradrénaline, à la dobutamine, si on ne rétablit pas rapidement la situation, et si on pense que le patient a un avenir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, implanter le patient alors que les jambes, les mains, les pieds sont totalement bleus, je pense qu'il ne faut surtout pas hésiter à implanter une ECMO si vous êtes dans un centre d'ECMO, ou appeler l'UMAC pour implanter cette ECMO et transférer ensuite le patient.
Merci beaucoup. Quels sont les trois papiers majeurs sur le sujet que vous recommandez ?
Alors, en toute modestie, le premier papier, c'est un papier que j'ai signé, mais qui est un papier collectif, qui est un référentiel d'experts avec Société française de cardiologie, de réanimation, d'anesthésie et réanimation, de chirurgie cardiaque et d'urgence, hein, qui est paru dans Annals of Intensive Care et qui est une recommandation formalisée d'experts. Ça ne concerne pas que l'assistance circulatoire, mais c'est très important, parce que c'est la prise en charge globale du choc cardiogénique, de l'arrivée du patient à la réhabilitation. Et je crois qu'on ne peut pas parler d'assistance circulatoire sans connaître tout ce qu'il y a avant. Et les deux autres papiers sont deux très bons papiers de revue, exclusivement consacrés à ce sujet. Donc le premier est un papier d'Abrams qui est paru dans le JACC, Journal of American College of Cardiology, où Alain Combe co-signe aussi ce papier. Et le deuxième est un papier de l'équipe de Judith Hochman, qui est vraiment, on va dire, la personne qui a révolutionné la prise en charge du choc cardiogénique, hein, qui est l'auteur du papier, fameux papier de l'étude choc des années 2000, qui concerne aussi la partie technique, partie indication de l'assistance cardiaque. Voilà. Si vous avez lu ces trois papiers, vous connaissez les recommandations sur le choc cardiogénique, les indications et les différentes techniques utilisables. J'ai parlé que d'ECMO là, il y a un certain nombre d'autres dispositifs qui peuvent être utilisés.
Et comme d'habitude, notre question bonus, qu'est-ce que vous diriez à un jeune aujourd'hui qui souhaiterait faire de la réanimation pour le motiver, le conforter dans son choix ?
Alors, c'est une question d'actualité, hein, clairement, parce qu'il va falloir que l'on parle à nos jeunes qui vont, les futurs jeunes MIR qui vont arriver. Clairement, il faut qu'il ait la passion et qu'il ait de l'intérêt pour une discipline exigeante, mais qui donne beaucoup. Qui permet de toucher à tous les domaines de la médecine, qui est le côté technique, le côté intellectuel, le côté éthique, qui est une discipline extrêmement physiologique et physiopathologique, mais où la recherche basique est extrêmement forte aussi, et qui est une discipline d'équipe, ce qui, pour certaines personnes, était aussi un avantage, qui permet de ne pas travailler seul et de partager ses joies et ses peines.